Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Lucien Mbanzimbula.
Au sommaire de ce journal, 10 nouvelles fosses communes ont été découvertes au Kassai central. Vous entendrez le procureur Flori Kabangenoumbi sous peu. En Ituri, une personne a été tuée, une autre grièvement blessée. Bilan des manifestations des samedis pour protester contre le meurtre de deux jeunes de la communauté Emma. Puis notre invité dans la deuxième partie de cette édition, c'est le ministre provincial de la Santé du Bas-Ouélé. Son entretien avec André Kitenge porte sur la fin de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola déclarée à Likati. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le procureur général de la République et l'auditeur général des FRDC confirment la découverte des 10 nouvelles fosses communes sur l'axe Chikapa, Sumbula et Diboko au Kassai central. Flori Kabangé et le général Joseph Pondé l'ont dit ce lundi au cours d'un point de presse qu'ils ont co-animé à Kinshasa. À la même occasion, ils ont mis en garde toutes les autorités et personnalités politiques qui seraient tentées par des ambitions, des créations et entretiens des milices. C'est dans ce cadre que le PGR annonce l'autorisation qui vient de lui accorder l'Assemblée nationale depuis vendredi d'enquêter sur l'implication présumée du député national Clément Kankou dans les massacres du Kassai. Le procureur Flori Kabangenoumbi est au micro de Jeff Ngoy.
Le parquet général de la République s'active à rechercher les éventuels tireurs des ficelles dans cette grave et sinistre affaire. Il s'agit d'une démarche en vue d'identifier avec précision les donneurs d'ordre, les commanditaires, afin qu'ils subissent la rigueur de la loi. C'est dans ce cadre qu'un dossier judiciaire y est ouvert à charge du député national Clément Kankou, à partir notamment de l'élément sonore se trouvant dans les 10 dossiers, conformément aux articles 107 et 153. 1 de la Constitution de la République et à l'article 75 de la loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation, le procureur général de la République a adressé au président de l'Assemblée nationale le réquisitoire du 22 mai 2017 aux fins de l'instruction. Car, à notre sens, la nature des faits et la gravité des indices entourant la personne du député national Clément Kankou justifient l'exercice de l'action publique. L'Assemblée nationale vient d'accéder à notre demande.
Parlant justement du Kassai, notez que les habitants du groupement des Benampunga, chefferie des Bakwakalongi, ont déserté leur village depuis samedi. Ils ont fui l'incursion des présumés miliciens du chef Kamuina Nsapu. Des sources locales signalent l'incendie des dizaines d'habitations dans cette contrée du Kassai oriental. Le président de la société civile sous coordination des Tshilenge plaide pour une intervention urgente en faveur de ces populations terrées en forêt. Jean-Claude Gandou est joint par Chris Moukande.
C'était aux environs de 14h, heure locale. Les miliciens ont apparu dans le groupement de Benampunga et faisant leur apparition, la sécurité commis à ce point a eu à s'échapper et ces miliciens ont eu à brûler plus de 66 cases. Jusqu'à ce moment que je vous parle, la population vit présentement en brousse dans une misère très considérable dans le groupement voisin et agglomération voisine des secteurs de Kalonji Sud dans la chefferie de Bakwakalonji. Je demande surtout à l'autorité provinciale d'avoir un œil perçant vers les ressortissants de Tshilenge vivant à Kinshasa ou les ressortissants de la chefferie de Bakwakalonji vivant à Kinshasa qui sont en train d'utiliser la population à des actes non conformes à la base. Et aussi à l'autorité de voir les modes d'octroi de pouvoir coutumier à travers la chefferie de Bakwakalonji pour couper court et mettre fin à ces genres d'incursions qui apparaissent à travers la chefferie de Bakwakalonji et le territoire de Tshilenge en général.
Signalons que le gouverneur Ngoï Kassangi s'est rendu à Benampunga le même samedi pour réconforter la population et renforcer la sécurité. Des militaires y ont été déployés en renfort à la police. Toujours en rapport avec la situation sécuritaire au Kassai, le gouverneur du Kassai appelle la population de sa province à la culture de la paix. Marc Manyanga effectue une tournée depuis samedi dans les 5 territoires de cette province. André Kambala nous raconte.
La première visite du gouverneur dans la cité de Lobo intervient 3 mois après la destruction des infrastructures de l'église catholique et d'autres de l'État. Une destruction orchestrée par les éléments attribués au chef commun Nsapu. Après une visite guidée de l'évêché, du généralat des sœurs et d'autres écoles, Marc Manyangandambu s'est dit déçu.
Les dégâts sont plus immenses. Ce que nous allons faire, c'est une évaluation. Il y a eu une première déclaration de sinistre qui avait été déjà faite. Les estimations n'ont pas été à la hauteur de la réalité et j'estime qu'il va falloir que les mêmes experts descendent aussi pour faire une évaluation qui soit proche de la vérité.
Cet activisme a perturbé pour un temps les activités de l'église catholique, mais pour le moment, les cultes ont repris et les chrétiens de Lobo exhortent leur évêque à retourner dans son diocèse. Jean Chisungu, directeur adjoint de la commission diocésaine Justice et Paix.
Les chrétiens avaient même des difficultés pour pouvoir prier. Ce n'est que vers les 2 dernières semaines ici qu'ils ont repris les activités de prière. Nous demandons à ceux qui peuvent nous aider de pouvoir réhabiliter ces infrastructures de sorte que l'évêque puisse revenir, qu'il puisse purifier la cathédrale qui a été profanée.
Le gouverneur appelle la population de Lobo à ne pas céder aux velléités de ceux qui sèment la division. De retour de Lobo, André Kambala Mujanaï, Radio Kapi.
Nord Kivu, la localité de Kasindi, située à plus ou moins 90 km au nord-est de la ville de Beni, a été attaquée cet après-midi par un groupe de Maï-Maï non autrement identifiés. Selon les sources locales, les assaillants qui étaient venus du parc national des Virunga se sont affrontés avec les forces de défense et de sécurité. L'administrateur du territoire de Beni rassure que la situation est sous contrôle. Les assaillants viennent d'être repoussés par les FARDC et se dirigent vers la localité voisine de Kasindi Port. On écoute Amisi Kalonda, joint au téléphone il y a quelques minutes par Martial Papimukeba.
Les Maï-Maï voulaient attaquer la position FARDC qui est sur la colline. Heureusement, nos voyants militaires sont toujours prêts et les ont frappés, les sont en train de fuir vers l'axe Kasindi Port. Ils ont laissé un corps et un blessé qu'on a capturé, qu'on a acheminé à l'hôpital. Et on continue à les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement. C'est vraiment presque une heure que l'attaque a eu lieu. On avait commis des rumeurs toute la semaine qu'un groupe de jeunes Maï-Maï s'organise quelque part pour attaquer Kasindi. Et toutes les dispositions ont été prises. Personnellement, j'étais à Kasindi pour préparer les services spécialisés. Voilà, ils sont frappés. En tout cas, pour le moment, il n'y a plus de crépitement de balles. La situation est sous contrôle des FARDC. Il n'y a pas à s'inquiéter. Demandons à la population de ne pas paniquer, mais seulement d'être vigilante parce que l'ennemi s'est caché dans certaines maisons, surtout la partie parc.
Signalons que suite à ces affrontements, une panique règne pour l'instant à Lubiria, une agglomération frontalière avec l'Ouganda et située à 2 km de Kasindi. Selon des sources locales, quelques habitants de la zone viennent de traverser vers l'Ouganda voisin. Du côté de l'Ituri, une personne a été tuée, une autre est grièvement blessée et plusieurs boutiques ainsi que des dépôts de carburant pillés dans les différents marchés de Bounia. Tel est le bilan des manifestations de samedi pour protester contre le meurtre des 2 jeunes de la communauté Emma, dont les corps ont été retrouvés dans la rivière Mpoi, à 50 kilomètres au sud-est de Bounia. Ce bilan est donné ce lundi par le major Abeli Mwangu, porte-parole de la police en Ituri. Isaac Remoyope nous en dit plus.
Le porte-parole de la police rapporte que la personne qui est morte est un tétaximène qui a été lynché par la population. La victime s'est livrée au pillage d'essence au rond-point Macampagne, au quartier Bankoko à Bounia. Et notre a été grièvement blessé dans les mêmes circonstances. Les manifestants se sont également livrés au pillage de plusieurs boutiques et des dépôts de carburant des revendeurs. C'était notamment au marché central de Bounia, de la Monisco et du sous-quartier Yambiaya. Le major Abeli Mwangu attribue ces scènes de pillage aux centaines de jeunes taximènes venus des localités de Kasseni, Chari et Chai. Ils ont été dispersés par la police qui a fait usage de gaz lacrymogènes. Certaines sources signalent les mouvements des habitants des villages de Kapuru, Malonga, Nyamavi et Tagba au bord de la Calbert. Ils fuient suite aux rumeurs d'attaque annoncées par des miliciens des FRPI. Ils se réfugient à Kasseni et Chomia. Les gouverneurs appellent la population à l'apaisement et à la cohabitation pacifique. Rappelons que le calme est revenu depuis dimanche et que les activités ont repris ce lundi matin au centre-ville après près de 2 jours de paralysie. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Réaction de l'ONG Les Amis de Nelson Mandela après l'arrestation depuis 4 jours à Goma des 4 jeunes qui manifestaient au rond-point Seigneurs à Goma. Ils protestaient contre les tueries qui sévissent ces jours-ci à Beni et dans le Grand Kasaï. Ils préparaient aussi l'exposition de leurs œuvres prévues hier dimanche. Arrêtés vendredi, ces jeunes artistes ont été transférés le lendemain, samedi, à la prison de Muzenze. Le directeur exécutif de l'ONG Les Amis de Nelson Mandela condamne ces arrestations et les conditions de détention de ces jeunes. La RDC ne doit pas être considérée comme une prison, affirme Robert Ilunga. On l'écoute au téléphone de Bibi Mukonkole.
Que parmi les artistes qui sont arrêtés, il y a nos membres et nos sympathisants et qui font effectivement les droits de l'homme. Et on a été très surpris que les vendredis passés, ils soient amenés devant les juges sans réserve. On les amène même à la prison de Muzenze, là où ils se trouvent pour le moment, dans des conditions qui n'est pas normales parce qu'ils manquent de matelas, qu'ils n'ont pas mangé les vendredis, ils n'ont mangé que hier, que le samedi. Et à la prison, ils ont été reçus sans place, sans leur donner de place pour se dormir. Et cette situation, nous, défenseurs des droits de l'homme, ça nous gêne et ça doit interpeller toute l'autorité. La RDC ne doit pas être considérée comme une prison. Les libertés publiques ne doivent pas être traitées comme un poison pour les autorités congolaises. On doit nous laisser exprimer librement et même ce que les artistes viennent de lancer comme campagne. C'est à l'avantage même de nos autorités.
Ici à Kinshasa, il y a eu des troubles et des tirs d'armes cet après-midi au croisement des avenues des Huileries et Kigoma dans la commune de Kinshasa. Selon des sources sur place, un Congolais travaillant pour un Chinois a été battu par son employeur. Il est aux soins intensifs dans un hôpital de la place, affirment des sources policières. Plusieurs personnes se trouvant dans les parages sont descendues sur les lieux en guise de représailles. La police a tiré des coups de feu en l'air pour disperser la foule. L'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola, déclarée il y a plus d'un mois à Likati dans le bas où elle est désormais maîtrisée. C'est la déclaration du ministre provincial ce week-end à Radio Okapi. Selon lui, un désengagement des partenaires sur le terrain a débuté ce week-end même après avoir soigné 2 malades et enregistré 0 cas au cours de ces 3 dernières semaines. Néanmoins, Floribert Tepage affirme que la surveillance se poursuit. Il l'a dit au micro d'André Kitenge.
Nous avons au total enregistré 5 cas, dont 2 confirmés. À ce jour, c'est depuis le 17 mai que le dernier cas confirmé a été déclaré guéri. Et nous avons commencé la surveillance. Et je peux vous dire que nous sommes en train de voir la porte de sortie, très probablement la semaine prochaine. L'autorité compétente, c'est-à-dire que le ministre national pourra déclarer officiellement la fin de l'épidémie si, durant la période qui reste, il n'y a aucun cas suspect confirmé. On note sur terrain un début de désengagement. Début de désengagement, vous devez savoir que lorsque l'épidémie a été déclarée, l'INRB a déployé 2 laboratoires mobiles, un à Likati pour la recherche du virus et un deuxième laboratoire qui était basé ici à Bouta. C'était un laboratoire pour les analyses bactériologiques et sérologique. Étant donné que nous approchons la fin, il est tout à fait normal qu'on puisse noter ici à Bouta le départ de ces laboratoires mobiles qui étaient basés ici et même au niveau de Likati, il y a déjà un désengagement qui commence, mais cela ne veut pas dire que nous allons arrêter avec la surveillance. La surveillance va continuer.
Autre actualité dans ce journal, dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères depuis plusieurs mois. La Banque centrale du Congo explique cela par 3 facteurs. Il s'agit de la pénurie des devises, l'ajustement difficile au niveau du trésor et la spéculation. Et pour parer à cela, Jean-Louis Kayembe, directeur général de la Banque centrale du Congo, en charge de la politique monétaire et des opérations bancaires, préconise la recherche de solutions durables, telles qu'une discipline budgétaire. Il faut également trouver d'autres sources de revenus budgétaires. Par ailleurs, Jean-Louis Kayembe invite les Congolais à garder l'espoir, car selon lui, le franc congolais finira par recouvrer sa santé d'antan. Jean-Louis Kayembe, directeur général de la BCC, interrogé par Nadine Foulan-Simba.
face aux causes qui sont à l'origine de cette dépréciation. Donc d'abord, c'est un ajustement budgétaire en interne. Donc il faut une discipline budgétaire, essayer dans la mesure du possible de travailler sur base caisse. Donc ne dépenser qu'à la hauteur des ressources qui sont mobilisées. Deuxièmement, c'est qu'il faut que nous puissions, à court et moyen terme, chercher d'autres sources pour le trésor, d'autres sources d'appui budgétaire et d'appui à la balance des paiements. Parce que face à une pénurie de devises, la solution, c'est au niveau de l'offre, c'est réduire les importations ou bien augmenter l'offre de devises sur le marché. Pour ne pas réduire de manière drastique les importations, ce qui n'est pas qui va créer encore d'autres problèmes. Et donc, ce que l'on peut faire, c'est essayer d'obtenir des appuis à la balance des paiements, les appuis budgétaires, avoir des investissements directs étrangers et réaliser des entrées de devises sur le marché et de manière à ce qu'on puisse conforter l'offre sur le marché.
Actualité Afrique Monde.
La justice sud-africaine a rouvert lundi une enquête sur la mort d'Ahmed Timol, un militant anti-apartheid décédé en 1971 d'une chute du 10e étage du quartier général de la police. Il y a suffisamment d'éléments pour rouvrir cette enquête dans l'intérêt de la justice, a déclaré le juge Billy Motl lors d'une audience. 8 soldats tchadiens ont été tués ce week-end lors des combats contre des djihadistes de Boko Haram sur 5 îles nigériennes du lac Tchad, a annoncé lundi à N'Djamena le porte-parole de l'état-major tchadien. Selon le bilan fourni par le colonel Azem, il y a aussi 18 blessés du côté des forces de défense tchadiennes ainsi que plus de 160 djihadistes nigériens tués. Les soldats tués faisaient partie de la force régionale créée par les pays riverains du lac Tchad pour lutter contre le groupe djihadiste nigérian, selon l'officier. Au moment où se tient à Paris le premier procès des biens mal acquis, la fille et le gendre du président congolais Denis Sassou Nguesso ont été mis en examen cette semaine dans l'un des volets de l'enquête sur l'origine du patrimoine fastueux des familles des dirigeants africains en France. Propriétés dans les beaux quartiers de la capitale, dépenses somptuaires, voitures de luxe depuis 2010. Des magistrats financiers tentent de déterminer si les fortunes des trois familles présidentielles, celles de Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, de Teodoro Obiang-Nguema de la Guinée équatoriale et Feu Omar Bongo du Gabon, ont pu être bâties sur le territoire national grâce à des deniers publics détournés dans ce pays. Après le neveu du président Wilfried Nguesso, en mars dernier, les juges d'instruction parisiens ont mis en examen Julienne Sassou Nguesso et son mari Guy Johnson pour les mêmes faits présumés de blanchiment des détournements des fonds publics, a-t-on appris dimanche des sources proches du dossier. Sans plus tarder, nous entrons dans la deuxième partie de cette édition avec le dossier. L'université de Lubumbashi organise depuis jeudi dernier un colloque international dont le thème est « Population et environnement ». Ces assises de deux jours regroupent les scientifiques venus de plusieurs horizons, notamment de l'Italie, de la France et de Kinshasa. Ils plancheront sur des sous-thèmes variés dont celui relatif au réchauffement climatique et ses conséquences en RDC. Et la cérémonie d'ouverture a eu lieu au bâtiment du 30 juin de Lubumbashi. Quelles sont les attentes de l'université de Lubumbashi en rapport avec ce colloque international? Dossier signé Madeleine Waila Waikwa.
Dans ce mot d'ouverture, le gouverneur de la province du Haut-Katanga a encouragé l'université à puiser dans son expertise pour faire des propositions à l'autorité pour que des réponses indouanes soient apportées à cette problématique. Célestin Pandekapopo.
Notre province s'emploie à mettre en pratique les résultats des travaux de ces colloques. Que les experts commis à cette tâche ne perdent pas de vue que mon gouvernement et moi-même avons le regard tourné vers eux dans l'attente de résolutions salvatrices.
Les travaux dans les ateliers ont été précédés par une conférence inaugurale du père Léon de Saint-Moulin, un historien de formation, ancien doyen de faculté de l'histoire à l'université de Lubumbashi. Son intervention a porté sur l'histoire et perspective de la croissance en RDC et responsabilité écologique. Le conférencier a démontré l'évolution de la population tant dans les milieux ruraux que dans les milieux urbains depuis 1880 jusqu'en 2011. D'après lui, cette croissance impose des réflexions du point de vue écologique et du point de vue environnemental. Certains participants ont salué l'organisation de ce colloque. Pour eux, l'université doit jouer le rôle d'éclaireur pour apporter des solutions aux problèmes de la société. Eric Mwamba, président des anciens universitaires de Lubumbashi.
L'université, c'est en fait l'inconditionné qui conditionne ce qui la conditionne. Et là, l'université est en train de jouer son rôle. Une ville ne peut pas évoluer sans des idées.
Quelles sont les attentes de l'UNILU en rapport avec ces colloques internationaux? Professeur Julbert Kishiba, recteur de l'université de Lubumbashi.
L'université de Lubumbashi s'engage dans une nouvelle phase. L'intelligence universitaire doit donc être restée en éveil et mettre en œuvre tout son savoir-faire, pour accéder au savoir devenir. Ainsi, le paradoxe congolais sera vaincu.
Pour ce qui est des travaux en atelier, trois groupes ont été constitués. Ils vont réfléchir sur trois thèmes, sur la population migratoire et le changement climatique, éducation, environnement, biodiversité et développement rural. Et les propositions qui sortiront de ces ateliers seront soumises aux décideurs lors de la cérémonie de clôture qui interviendra ce samedi. Lubumbashi, Madeleine Waila, Radio Okapi.
L'invité.
La fin de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola déclarée il y a plus d'un mois à Likati, en territoire d'Akéti, dans la province du Bas-Ouélé, s'annonce déjà. Un des engagements des partenaires sur le terrain a débuté le week-end dernier. Qu'est-ce qui justifie ce désengagement et quel bilan pouvons-nous dresser de cette épidémie? Les réponses à toutes ces questions avec le ministre provincial de la Santé du Bas-Ouélé, l'un des membres du comité provincial de la lutte contre cette maladie, Dr. Floribert Tapage est au micro d'André Kiting.
Monsieur le ministre provincial de la Santé, bonjour.
Bonjour.
Monsieur le ministre, où en sommes-nous aujourd'hui avec l'épidémie de la fièvre hémorragique d'Ebola qui a été déclarée à son temps dans la zone de santé de Likati?
Oui, effectivement, c'est depuis le 12 mai que l'épidémie a été déclarée dans la zone d'Akéti. Et nous avons au total enregistré 5 cas, dont 2 confirmés. À ce jour, c'est depuis le 17 mai que le dernier cas confirmé a été déclaré guéri. Et nous avons commencé la surveillance. Et je peux vous dire que nous sommes en train de voir la porte de sortie. Très probablement la semaine prochaine, l'autorité compétente, c'est-à-dire que le ministre national pourra déclarer officiellement la fin de l'épidémie si, durant la période qui reste, il n'y a aucun cas, aucun événement malheureux qui intervienne, c'est-à-dire un cas suspect confirmé.
Comment avez-vous organisé cette lutte?
En fait, la situation, c'est tout est parti de la base, l'alerte est partie de la base. Un infirmier de Namboa a remonté le prélèvement et la DPS s'est organisée pour commencer l'investigation. Et lorsque le cas a été confirmé, nous avons eu la confirmation de l'INRB. Vous savez que le problème de l'épidémie à maladie Ebola, c'est un problème mondial. Toute la communauté internationale et nationale est descendue sur le terrain pour nous appuyer à combattre cette épidémie. Et nous devons remercier le gouvernement central, l'appui qu'il nous a apporté, les partenaires tant nationaux qu'internationaux. Je citerai l'OMS, l'UNICEF, ALIMA, l'ONG ALIMA, MSF, qui se sont déployés rapidement sur le terrain pour nous appuyer dans cette lutte. Et voilà, nous sommes pratiquement en train de gagner cette guerre contre ce virus.
Docteur, nous avons appris également que le laboratoire qui était sur place est parti. Et cela signifie qu'on est à la fin?
Bon, on note sur le terrain un début de désengagement. Un début de désengagement, vous devez savoir que lorsque l'épidémie a été déclarée, l'INRB a déployé 2 laboratoires mobiles, un à Likati pour la recherche du virus et un deuxième laboratoire qui était basé ici à Bouta, c'était un laboratoire pour les analyses bactériologiques et sérologiques. Étant donné que nous approchons la fin, il est tout à fait normal qu'on puisse noter ici à Bouta le départ de ces laboratoires mobiles qui étaient basés ici. Et même au niveau de l'ICATI, il y a déjà un désengagement qui commence. Mais cela ne veut pas dire que nous allons arrêter avec la surveillance. La surveillance va continuer.
Quel appel lancez-vous à la population du Bas-Uélé en général?
L'appel, c'est de demander à cette population de rester vigilante. Parce que depuis le début de l'épidémie, il y a plusieurs messages qui ont été lancés. Et je crois qu'ils doivent continuer à observer ce qu'on leur a demandé de faire. Et c'est avec ça que nous pourrons arriver à vaincre cette maladie.
Monsieur le ministre, je vous remercie.
Je vous remercie pour votre passage ici à Bouta.
Okapi Sport.
Okapi Sport avec vous, Nana Mbala. Bonsoir Nana.
Bonsoir Lucie Mbanzimboula. Bonsoir amis sportifs. Les comités exécutifs de la LINAFOOT s'est réunis en son siège à Kinshasa, Gombe. Plusieurs dossiers brûlants étaient au menu de leur discussion, notamment celui du FC Renaissance. Le club orange de Kinshasa est exclu du championnat et est relégué à l'EPFKIN. C'est l'une des décisions prises par la LINAFOOT. Nous retrouvons Enoch Matondo depuis le siège de cette institution nationale.
C'est la décision la plus sévère que la Ligue nationale de football vient de prendre pour le FC Renaissance du Congo. Le club orange, pour les actes de récidive, est relégué à la division inférieure ou à l'entente provinciale de football de Kinshasa. Le FC Renaissance du Congo perd ce match par forfait 3-0 contre l'ASV Club. Le club orange devra également payer l'amende de $20,000 pour envahissement de la zone neutre par ses supporters et son président. Le FC Renaissance du Congo perd également les recettes de ce match et puis paiera des préjudices causés. Ange Kakoubi et Rachidi Assoumani sont aussi sanctionnés pour jeu dangereux. Concernant la Sve Club, une amende de $5,000 lui est infligée pour jet de projectiles par ses supporters et jeu dangereux de Muzungu et Francisco Obama. Depuis le siège de la Ligue nationale de football, Enoch Matondo pour Okapi Sport.
Notez que la LINAFOOT a également suspendu Mutombo Chinkobo pour cotation fantaisiste et rapport incomplet. Et c'est là pour 12 mois. C'est les commissaires au match de la rencontre Sangabalende Don Bosco. Et également le Daring Club Motema Pembe n'est pas épargné. Lui également est sanctionné pour envahissement de l'aire de jeu par ses supporters lors du match contre Mungano. L'équipe paiera $5,000 tout comme son secrétaire sportif qui est suspendu pour 3 mois et il lui est également sommé de payer une amende correctionnelle de $100. Donc c'est messieurs Biliam Sikou et c'est pour ne pas avoir appuyé la réserve de son club lors du match Bukavu Dawa de Saint-Pé. Sur terrain, notez qu'au classement partiel, donc à l'issue de ses forfaits infligés à Renaissance, Mazembe garde toujours la tête avec 27 points, suivi des deux Saint-Pé 24 points plus 14, V Club 24 points plus 11, Renaissance 15 points moins 2, Sangabalende 14 points, Don Bosco 12 points, Bukavu Dawa 5 points et bon dernier Mungano avec 4 points. 10e Coupe du Congo de football féminin, il y a eu un seul match cet après-midi au Stade Atarafayel de Kinshasa. L'équipe de Kinshasa Avenir a été battue par Bafana Bafana du Katanga sur la marque de 0-5. Et puis en ce qui concerne le basketball, sachez que SCTP de Matadi, sacré champion du Congo central, c'est là après avoir battu cet après-midi, l'équipe des Sion sur la marque de 100 points à 56. Et malgré cette défaite, Sion est donc son second. Ainsi, STP et Sion représenteront le Congo central à la prochaine Coupe du Congo de basketball prévue en juillet prochain à Kinshasa. Et toujours en basketball à Goma, sachez que chez les dames, PGB Elite a dominé Tropicana par 72 points contre 37. Virunga a eu raison de Goma Bulls, 82 points à 52. Et chez les messieurs, PGB a écarté les Léopards, 59 à 58.
Le Le rappel des titres, avant de boucler ce journal, le procureur général de la République et l'auditeur général des FARDC confirment la découverte des 10 nouvelles fosses communes sur l'axe Chikapa, Sumbula et Diboko au Kasaï central. Vous avez entendu le procureur Florica Brangenumbi dans ce journal. En Ituri, une personne a été tuée, une autre grièvement blessée, bilan des manifestations des samedis pour protester contre le meurtre de deux jeunes de la communauté Emma. Puis, ce journal a été coordonné par Noëlla Luzitukabombi sous la supervision de Suzanne Nzobo Odra et Dieudonné Nyangasa. Wa Nyangasa était à la mise en onde. Merci de l'avoir suivi.